Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le 5 à 7 avec Arlette. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Alain Labonté. Nous parlons de livres et Alain nous lira quelques extraits choisis. Salut Alain.
Bonjour Arlette.
Sandrine Bourget de la librairie Le Guélion est avec nous et nous présente deux de ses coups de cœur, Julie Ravary-Pilon et Vincent Bolduc, dans un instant. Bonjour. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Véronique de chez Librex, elle aussi avec une invitée coup de cœur, Nathalie Roy, qui nous présente son dernier roman. Bienvenue à tous.
Le temps perdu, je le connais, il a la gueule de mes regrets, il a du soleil dans les yeux, du sable blanc dans les cheveux. Perdu, je l'ai laissé sur une chaise dans un café. Sur une photo, il me sourit. Nous étions beaux et bons amis. Le temps perdu se moque de moi. Il se fout bien de mes migraines. Il fiche le camp sans état d'âme. Il garde son sang-froid. Sans larmes, sans larmes. On se quitte un jour quand on s'est aimé. Pour les raisons mêmes qui nous ont unis. Pour la différence, pour la liberté, ce qui nous a plu. Un jour ne va plus, on ne s'aime plus. Le temps perdu frappe à la porte, des souvenirs dans le grenier. De ma boîte crânienne venteuse, de mes ruptures amoureuses. Le temps perdu c'est un roman. Les pages volent dans le vent. Une histoire qu'on jette sous un pont, dans la rivière des sanglots longs. Le temps perdu est un voyou, un détrousseur de grands chemins. Voleur de rêves, faiseur de trous, accompagnateur de chagrin. De chagrin. On se quitte un jour comme c'est aimé. Pour les raisons mêmes qui nous ont unis. Pour la différence, pour la liberté, ce qui nous a plu. Un jour ne va plus, on ne s'aime plus. Le temps perdu est un voyou. Trousseur de grands chemins, voleur de rêves, faiseur de trous, accompagnateur de chagrin, de chagrin. On se quitte un jour quand on s'est aimé, pour les raisons mêmes qui nous ont unis, pour la différence, pour la liberté, ce qui nous a plu. Un jour ne va plus, on ne s'aime plus.
Marc Lavoine, Le temps perdu.
Alors Sandrine, Alain, le menu de cette première heure. Sandrine, tu vas nous présenter tout à l'heure ton coup de cœur. Et toi, Alain, tu vas nous expliquer pourquoi cette rencontre aujourd'hui.
Moi, je vais présenter Sandrine. Bien, en fait, cet été, j'ai participé à un événement qui s'intitulait Le combat homo. Un projet chapeauté par Denis Martin Chabot. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer une charmante bibliothécaire ou libraire, je dirais, qui était sur les lieux pour vendre les livres dont on défendait, nous, Judith Lucier, oui. Jocelyn Lebeau, Anne-Marie Duprat et moi-même. Et j'ai découvert à ce moment-là la librairie Le Guélion et j'étais moi-même étonné d'apprendre que mes livres étaient en vente là, mais je ne connaissais pas cette librairie-là. Alors, je suis revenu chez moi et je me suis dit, tiens, on va faire un petit événement
oui.
pour les faire connaître davantage. Donc, ce vendredi, le 26 octobre, de 17h30 à 19h, avec ma belle amie Anne-Marie Duprat, nous allons lire environ une vingtaine d'extraits de 20 auteurs différents, de la littérature féministe, mais aussi de la communauté LGBT. Donc, je pense que ça promet d'être un événement vraiment intéressant, mais aussi de découverte pour les gens qui viendront à notre rencontre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Sandrine est là pour nous parler de ses coups de cœur, des nouveautés et des gens qu'elle aime. Et si on a le temps, on va déraper encore plus.
Alors, Sandrine, tu nous as amené deux de tes coups de cœur. Bon, tu aurais pu en amener 10, il n'y avait pas la place. Donc, parle-nous de ta première invitée.
Oui, donc ma première invitée est une autrice qui sort un livre au PUM cette semaine, donc demain. C'est Julie Ravary-Pilon.
Bonjour Julie!
qu'on a la chance d'attraper puisque c'est une très grosse semaine pour elle. Elle va nous parler de ça tout de suite. Elle lance aux éditions de l'Université de Montréal « Femmes, nation et nature dans le cinéma québécois ». Donc, merci Julie d'avoir accepté mon invitation.
Merci pour l'invitation.
Ça m'intéresse. Alors, parle-nous un petit peu de ce que tu as écrit. Et est-ce que je peux regarder le livre?
Oui, bien sûr. Avec plaisir. On les écrit pour ça.
Parce qu'en plus, c'est une belle photo de couverture. Une photo noire et blanc. D'une photo noire et blanc. J'aime oui. beaucoup, beaucoup.
C'est une, on peut commencer avec la photo peut-être oui. Sur le dessus. En fait, c'est un photogramme du film « Quebec, my love » de Jean-Pierre Lefebvre de 1969, qui était en fait un film que le réalisateur lui-même a appelé une colère contre les films de fesses, et notamment Valérie à l'époque.
D'accord.
Donc, à une époque où est-ce qu'on faisait un cinéma dans l'urgence, à peine un an plus tard, avec quelques milliers de dollars, on tourne dans un appartement. C'est un très beau film, un premier long-métrage féministe. Alors, je voulais rendre hommage en fait à Jean-Pierre, qui est devenu un ami et qui m'a laissé utiliser sa photo pour la couverture. Puis, il y a plusieurs photogrammes dans le livre aussi.
Excellent. Déjà, rien que la couverture, elle nous donne envie,
bon,
à part le titre, hein?
C'est intéressant en même temps que de parler d'un projet féministe, mais qui soit réalisé par un homme aussi.
Oui.
Intéressant comme regard,
oui.
J'imagine. Je ne sais pas si tu peux nous en parler.
Oui, avec plaisir. Ben, en fait, il faut savoir que les femmes au Québec, et puis là, on parle en termes de long-métrage de fiction, mm-hmm. naturellement, il y avait des femmes qui étaient au documentaire ou en cinéma expérimental. Mais en ce qui a trait au long-métrage de fiction, les femmes arrivent très tard à la réalisation. Donc, le premier long-métrage de fiction réalisé par une femme, Mireille Dansereau, La vie rêvée, en 72.
En 72?
Oui, c'est très, très,
ah, dis donc,
très,
c'est pas
très
si loin
tard.
De ça, hein?
Oui, exactement. Oui, ça fait pas très longtemps. En fait, les réalisatrices équitables, qui sont un organisme justement pour une meilleure place pour les femmes en réalisation au Québec, ont publié un livre qui s'appelle « 40 ans de vue rêvée » en 2012. Oui. Donc, justement, pour fêter seulement, en fait, 40 ans de réalisation. Donc, 40 ans de vue rêvée en hommage à la vie rêvée de Mireille Dansereau. Donc, c'est pour ça que je propose dans le livre que le film de Jean-Pierre Lefebvre soit le premier long-métrage de fiction féministe québécois. Parce que cet homme-là, avait un propos politique féministe qui visait à dénoncer justement une objectification des corps qu'il observait dans les films de fesses.
J'ai pas fait exprès, mesdames, messieurs, vous allez le croire, j'ai ouvert le livre et c'est une paire de fesses que j'ai en photo en noir et blanc. Et c'était pas intentionnel, mais il est venu.
voilà. Alors, plein de surprises.
C'est ça. Et dans le livre, en fait, au-delà du fait que tu relates cette histoire-là, est-ce qu'il y a une correspondance que tu as eue avec ce réalisateur-là? Y a-t-il des citations qui viennent de lui?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la chance... en fait, ça, il faut dire, c'est mon projet de thèse de doctorat.
OK.
Donc, Michèle Garneau, ma directrice, qui m'a poussée à aller à la rencontre des gens, justement, en profiter, justement... Mon projet est sur le cinéma québécois. Ils sont pas très loin.
Vivants aussi. C'est le fun des
aussi,
fois.
Aussi, exactement. Donc, j'ai eu la chance, en fait, il y a des entrevues inédites avec Jean-Pierre Lefebvre, avec la cinéaste Catherine Martin et aussi avec Gérard Bouchard, qui avait publié à l'époque, en début de thèse, donc en 2012-2013, je crois, un livre sur les mythologies. les imaginaires collectifs à travers leur mythologie. Donc, j'ai été discuter avec le grand bonhomme qui est Gérard Bouchard pour parler justement du mythe de la Terre-Mère, en fait, qui est central à mon livre.
OK.
Parce que je vois, quand je le feuillette, parce que je n'ai pas encore eu le plaisir de le lire, mais je vais le faire, hein, l'écoféminisme à l'ère de la mondialisation.
Oui, oui.
J'aime ça. en tirant un
Et
petit
ce
peu
livre-là,
vers la fin.
La clientèle qui va être intéressée, c'est quand même large, là, on
oui.
s'entend.
Oui, ben, en fait, on a...
C'est un livre pour tout le monde.
Oui, ben,
j'ai, oui, mais...
on a décidé, en fait, aux presses de l'Université de Montréal, en fin de parcours d'édition, de le lancer dans la collection Champs libres. Donc, on a retravaillé l'introduction et la conclusion. Les études restent les mêmes, mais pour vraiment un point de vue, plus un point de vue politique, féministe, oui. dans un premier temps, et j'essaie autant que possible de toujours avoir une écriture... juste une écriture qui est accessible à des gens, pas pour se parler. On a plein d'endroits pour se parler
oui.
entre nous à l'université,
oui.
mais aussi pour que ma grand-mère est en train de le lire en ce moment, puis je okay. sais qu'elle écoute l'émission en ce moment.
Alors, bonjour, madame
Yvette.
Tu as vulgarisé.
Exactement. Moi, mon but, c'est vraiment ça. Ma grand-mère connaît très bien l'histoire, est une femme, connaît très bien l'histoire québécoise, connaît très bien le cinéma. En fait, c'était justement, là, elle me dit, elle prend son temps pour le lire parce que c'est sûr que c'est dense, il y a beaucoup d'informations. Mais ça se lit très bien. Ma grand-mère elle n'était pas dans le milieu du cinéma. Donc,
c'est pas un contenu hermétique. Là.
Exactement.
Yvette. On peut l'appeler comme ça. Et donc, ton point de chute pour dire oui, ça peut être lu par tout le monde.
Exactement.
Tout à fait.
Ça, c'est une bonne chose. Ben, on va continuer
non,
là-dessus.
Mais je trouve ça important parce que des fois, les gens pensent que c'est juste pour les femmes. Mmh. Ou pour... Non, c'est pas ça du tout.
T'sais. Non, c'est pour nous tous.
Pour tout
les spécialistes. Toi aussi, tu vas le lire d'ailleurs. Et on en reparlera. À tout de suite.
See you.
Ariane Moffat.
Alors Julie, revenons à nous et revenons à toi. Donc, le livre s'appelle « Femmes, nation et nature dans le cinéma québécois », Julie Ravary-Piron. Puis vous allez voir la photo, l'image en noir et blanc, elle est absolument magnifique. Parlons un peu du colloque qui va avoir lieu à la Cinémathèque.
Avec plaisir. Oui.
Toujours à travers « Femmes, nation et nature dans le cinéma québécois ».
Oui, exactement. C'est un colloque qui s'appelle « Être femme dans les médias audiovisuels, cinéma, télévision, jeux vidéo et web ». Donc, en fait, à travers ces quatre médiums, on va penser à la fois à la création des femmes et la représentation des personnes s'identifiant comme femmes.
Okay. J'ai vu ça aussi, ça dure sur 3 jours?
C'est sur 3 jours, oui, exactement.
Sur 3 jours, et en lisant les journées, pardon, excuse-moi, je te coupe, j'ai vu qu'il y avait cinéma, mais j'ai vu qu'il y avait aussi les premières femmes humoristes aussi qui ont eu du mal à s'installer ici, et que ça en fait partie aussi. Enfin,
oui.
C'est vraiment un beau 3 jours avec plein de choses très intéressantes.
Oui, puis j'invite tout le monde à venir. C'est pleinement accessible par ascenseur. C'est ouvert et gratuit. Oui, à la Cinémathèque.
C'est gratuit.
Et l'événement auquel toi tu participes, est-ce que c'est une table ronde ou tu donnes une conférence devant les gens ou c'est un entretien?
En fait, c'est moi et c'est Laurie Saint-Martin et moi qui organisons cet événement-là. Nous, on va donner le coup d'envoi en introduction avec un billet politique.
Okay.
Je participe également, je vais animer une très belle table ronde sur les 35 ans de la publication de Femmes et cinéma québécois. Là, voilà le lien. Femmes et cinéma québécois, c'est le premier livre en 83 publié aux éditions du Boréal de Louise Carrière, un collectif avec notamment Marquise Lepage, José Boileau, Christiane Daviau-Tremblay, qui parlait... Oui, c'est ça. Donc, Louise Carrière va être là avec José Boileau, pardon. On va avoir en vidéo Marquise Lepage. Donc, on va revenir sur, en fait, qu'est-ce que c'était parler des femmes dans le cinéma québécois en 83.
Okay. Donc, c'est pas rien, ça. Hein?
Oui,
c'est un très beau livre aussi.
Exactement, oui, c'est un super beau livre disponible à Le Guélion.
Oui, tout à fait.
Le Guélion sera sur place aussi le premier jour du colloque. Hein?
Oui, on
mais
aura
là,
une
si
super
je comprends
table.
Bien, à Montréal, il y a 2 événements vendredi soir. Donc, moi et Anne-Marie Dupré à Le Guélion. Et s'ils ne viennent pas à Le Guélion, ils vont te voir à la cinémathèque.
En fait,
il y a 3 jours.
Parce que ça termine à 5 heures de mon côté,
ah,
à la cinémathèque. Et on prend une petite marge de santé et on se rend à Le Guélion pour 5h30.
Bon, ben,
tu
c'est
vois,
formidable.
Là, tout est bon. Tout est bon. J'avais lu avant. Hein.
Ah, okay.
J'avais
c'est
lu.
Bon.
C'est pour ça que la présentation était faite. Donc, c'est à la cinémathèque. Ça dure 3 jours. Et puis, allez voir. Sur le site internet?
Oui, vous pouvez aller voir sur le... En fait, oui, c'est 3 jours, du mercredi 24 au vendredi 26.
Oui.
Vous pouvez trouver le programme sur notre centre de recherche partenaire, en fait, qui est le CRILC. Si vous allez sur le CRILC et vous tapez « Être femme dans les médias audiovisuels », on a une très belle page Facebook aussi où est-ce que toutes les informations, les biographies des participantes et des participants...
C'est très bien fait, ceci dit. Hein, parce que là, j'y suis allée, j'ai pu aller regarder.
Ah, bah c'est cool.
Très bien fait.
Écoutez, on passe
on voit
de
plein
la...
de choses intéressantes.
Dans notre communiqué de presse, on s'amusait à dire on passe de la poune à occupation double.
C'est ça.
Donc, le script sexuel dans occupation double de la part de Pierre Barrette. On va parler de Epsilon, un studio qui prône la parité.
Oui.
On va parler justement de la poune, des spectacles avant les films. En fait, cette tradition-là avec Lou Pelletier. On va avoir l'écrivaine Martine Delvaux aussi qui va venir nous parler. Les femmes en animation. Féminin. On va parler de cheval serpent, même.
Mais saviez-vous que la poune était mon amie?
Ah oui?
Quand j'étais arrivée à Montréal, c'était ma voisine.
D'accord.
Et le soir, quand j'en venais de l'école, on prenait toujours notre bière ensemble.
Oh.
Et elle mettait du poivre dans sa bière. Elle avait toujours 3 cigarettes d'allumées.
C'est...
Et des fois, je disais, Rose, calme-toi, parce qu'à un moment donné, le feu va prendre quelque part. Mais c'est ça. Et quand elle a fait la pub, la Rose est douce, tu sais, elle était avec son bois sur le hood de l'auto. Je l'avais accompagnée justement à cette pub-là. C'était un très bon souvenir d'elle. Ah, ben, c'est le fun que vous en parliez.
Bon, ben voilà, très bien. Nous, on a reçu quelqu'un, Francine Larrault, qui était... qui a fait un spectacle sur toutes ces femmes-là qui ont été les premières femmes humoristes au Québec et ça a été quelque chose.
Ah, cool.
Alain, on va parler un petit peu avec Sandrine de vendredi, enfin,
oui, de vendredi.
De cette soirée.
Effectivement.
Alors...
Bien, j'ai demandé aux gens de, de Le Guélion de nous trouver des extraits de livres qu'Anne-Marie et moi allons lire. Donc, on, comme on, je disais, il va y avoir une vingtaine d'extraits. Et est-ce que je peux lire un tout petit extrait?
Tu vas lire un extrait. Après, je voudrais d'abord que tu finisses de nous expliquer ce qu'il va y avoir vendredi, puis après on revient.
Donc, et les gens sont invités à l'événement de 17h30 à 19h. C'est gratuit. On les accueille avec un verre de vin, parce que partout où je vais, il faut qu'il y ait du vin, bien entendu.
Alors, je vous l'annonce, j'en ai amené.
Oui, et là, c'est ça. Anne-Marie et moi, on va se partager des extraits, on va présenter les couvertures de livres, parce que moi, je veux que les gens découvrent cette librairie-là, qui pour moi, je trouve qu'elle est magnifique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beaux ouvrages qui méritent d'être connus davantage. Et ben, c'est ça le but de l'opération, en fait, c'est d'une part découvrir la librairie, mais aussi de découvrir des auteurs d'ici ou d'ailleurs. Mais il y a tellement de gens qui ont du talent, mais c'est pas tout le monde qui a l'occasion d'avoir des tribunes. Et
bien
je me
sûr.
Dis, si on peut faire une toute petite part de rien du tout à faire connaître quelques ouvrages, bien, ça sera ça, tu sais. Mais en même temps, bien, il y a des gens qui vont peut-être tomber en amour avec la librairie, puis ça fera des nouveaux clients.
Ben oui,
ben oui, tout à fait.
C'est ça l'idée.
Puis rencontreront Sandrine, diront, je t'ai entendu.
Oui.
À la radio, donc.
Ben, c'est ça. Fait que moi et Anne-Marie, on est bien, bien énervés de ça. On a bien hâte.
Ben oui, ça va faire combien de lectures chacun à peu près?
Ben une dizaine à peu près.
Ah, c'est pas mal, hein?
Oui, 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 oui.
Il va falloir préparer de l'eau, hein, pas du vin.
C'est ça.
Parce que j'ai bien peur qu'au bout du dixième, Alain...
Non, mais déjà, tu vois, dans mon livre « Une âme et sa quincaillerie », j'ai un extrait sur les femmes que je vais lire. Dans la correspondance
avec Simon
Boulris, dans « Moi aussi, j'aime les hommes », il y a un extrait qu'Anne-Marie va lire, que Simon a écrit. Je vais même lire un extrait inédit du livre « Apparaître » de Penelope McQuaid et moi.
Ah oui?
« Moi aussi, j'aime les femmes ».
De l'inédit.
Oui. Je vais lire un extrait. Je pense que je vais lire l'extrait où je parle des femelles bonobos.
Ah.
Ouais.
Ah.
Il faudrait peut-être les regarder aller. Parce qu'elles sont drôlement intelligentes.
Pour comprendre tout ça, voilà!
Ouais, ouais.
et une primeur à la librairie
oui,
de Guélion. Alors, heureusement, Julie, que toi, ça se termine à 17h et qu'on a le temps d'arriver à la librairie.
Oui, puis je vais lire un extrait du livre de Julie aussi.
Voilà.
Oui,
ah oui,
ça,
tu
c'est
l'as
sûr.
Décidé aujourd'hui.
Oui, je viens de décider ça. La preuve qu'on a des coups de cœur à
décide.
Tout instant.
À tout de suite.
Ben oui.
Cousin de goutte, donc il peut faire l'effet. Cousin de ma veuve qui m'a
C'était Mélissa Laveau, Cousin.
Alors, donc, on redonne ton nom, Julie Ravary-Pilon, et le titre de ton livre, Femmes, Nation et Nature dans le cinéma québécois. Et Alain, dans la prochaine demi-heure, tu vas pouvoir nous faire entendre de ta belle voix grave un texte. Qu'est-ce que tu vas avoir choisi?
Moi, c'est très important pour moi dans la vie de faire vivre la mémoire.
Oui.
Donc, je vais lire un extrait du livre d'Hélène Penneau, Les carnets du lac, parce qu'elle vivait près du lac Saint-Sébastien et elle compare l'homme au lac.
Oh, c'est beau ça, ça va être beau.
Oui.
J'ose même pas y penser.
Tout à fait.
Et puis, il va nous faire ça très, très bien. T'as choisi un morceau, deux morceaux?
Ben, tout à fait. Ben, un petit texte. Ah, oh, tu veux que je le lise là?
Non, tu ne vas pas le lire maintenant.
Ok,
tu vas
je
lire
reste
après.
Calme.
Tu sais, reste calme. Respire, zen. Et puis si tu as lu bien, après, on ouvrira la bouteille de vin.
Ah! Que de pression!
Que de pression. Sauf si le texte est super bien. Et sinon, s'il n'est pas super bien, ben, pas de vin.
Mauvaise nouvelle pour toi, je sais où est la bouteille.
C'est ça quand on invite les gens un peu trop souvent. Peut-être qu'il va
comme à la maison.
Que je rédime le plaisir de le recevoir. Mmh. C'est pas juste comme ça. Donc, on t'entend très bientôt. Préparez-vous, Alain, la bonté va lire. À tout de suite.
Tes pas résonnent seuls dans ta nuit, ne sachant trouver le coupable, encore une fois incapable de te savoir fort et aimable, face au bonheur qui se présente, face à ces joies qui pour toi chantent, encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit,
encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Tu ne sais jamais qui blâmer, toi l'autre ou la simple équation de vos deux personnalités, de toutes ces blessures sulfuriques. Tu gardes toujours quelques tics, quelques beaux souvenirs pathétiques. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Encore un autre cœur détruit.
Ciel tout bleu, un vertige immense t'envahit. Tu penses à quand tu seras vieux, les oiseaux semblent bien petits. Tu te demandes où est leur nid, qu'importe puisqu'ils perdront la vie. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Encore un autre cœur détruit. Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
Encore un autre amour. Pierre Lapointe et les Beaux Sans Cœur.
Mais oui! Alors maintenant, on a eu Pierre Lapointe et maintenant on a roulement de tambour, Alain La Bonté.
Quel parallèle.
Est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt.
Est-ce que tu vas mériter ton verre de vin, Alain?
J'espère bien. Mais sachez que je vais le lire avec mon cœur. Si je ne le lis pas bien, mon cœur sera là. Donc, les Vas-y. Carnets du lac, Hélène Penneau. Les lacs ne parlent pas, ils réfléchissent. Et les humains ne réfléchissent pas, ils parlent. C'est la plus irréconciliable différence entre nous. Ils ont inventé des tas de codes et de machines pour parler, s'amplifier, se reproduire. Des milliers de langues, de dialectes, de borborygmes. Ils parlent avec la bouche, les mains, les yeux, dans des micros, partout, même dans des bibliothèques. Ils ne sont pas là en personne et ils continuent de parler. Sur des papiers, des rubans, des écrans, jusqu'en dormant, il parle. Ne pas connaître le silence à ce point-là tient du phénomène de la foire. Ils parlent sans ouvrir la bouche, avec le non-dit. Même leur tête vide, ils parlent. C'est stupéfiant. Peut-être les myopes et les distraits se laissent-ils prendre par l'épuisante variété de leurs paroles, mais moi, je ne souffre pas du glaucome. Je suis de ces quelques lacs qui voient clair encore. Je devine que les hommes parlent pour oublier et non pas pour se souvenir. Ce vacarme, à chacun sa façon de se noyer. Qu'inonde-t-il ainsi? Où vont tous les mots qu'il laisse couler? Dans quel flot de paroles sombre-t-il? Je pressens un terrible secret. Dieu n'a-t-il pas donné la parole aux êtres humains que pour mieux cacher leurs réflexions?
Oh, tu sais quoi? C'est tellement magnifique ce texte. Il parle de ce qui s'est passé aussi dans la première heure. Tout se rejoint. Le micro, le cinéma,
ouais, c'est vrai.
Bon, toutes les manières de parler.
Mais Hélène, dans ce livre-là, c'est magnifique. Honnêtement, là, tout au long, elle fait toujours un parallèle entre les vertus de son lac et, oui. Je dirais peut-être la dérive des humains. Donc, c'est assez étonnant, l'intelligence du texte.
En tout cas, c'est très beau et on aurait eu l'impression que... Enfin, je sais que ce n'est pas le cas, mais on aurait pu penser que ce texte-là, ce morceau de texte-là, était préparé juste pour ce qu'on vient de dire pendant le temps qui vient de s'écouler.
Merveilleux.
Tu vois, on a parlé du micro, merci. On a parlé du cinéma.
J'ai l'impression que j'ai mérité un verre de vin.
Oui, oui! Tu vas l'avoir mérité.
Ah, j'ai des fans, enfin! Mais c'est une belle occasion de mettre en scène les prochains mots de Sandrine avec les livres qu'elle va nous présenter.
Alors, tu as des coups de cœur, non plus physiques, là, qui ne sont pas là, mais dont tu vas nous parler.
Oui, pour l'événement de vendredi, on prépare une belle mise en place, une belle présentation de livres de nouveautés LGBT, mais aussi d'auteurs et d'autrices d'ici. Donc, je vous ai amené quelques livres en exemple de ce qu'on va retrouver vendredi. Entre autres, un gros coup de cœur que je suis en train de lire, en fait, c'est Kevin Lambert, qui est originaire de Rimouski et qui nous offre son deuxième roman qui vient tout juste de sortir au début du mois, qui s'appelle « Querelle de Roberval », qui est une réécriture de « Querelle de Brest » de Jean Genet. Une très belle réécriture qui se passe à Roberval durant une grève dans une scierie et où le beau Querelle, qui est un homme gay, va en banlieue, va... ouvrir les mentalités de ses collègues de travail, mais aussi les séduire et devenir une espèce de mythe incroyable. Tout le monde va tomber amoureux de ce Querelle.
Ah, mais c'est fun.
C'est un livre qui se lit incroyablement bien, qui est fluide, qui est intéressant, qui peut plaire aux jeunes comme aux gens qui... aux syndicalistes, puisque ça se passe durant une grève, donc tous les mouvements syndicaux. C'est un livre qui est surprenant, qui, comme le précédent roman de Kevin Lambert, nous surprend avec du réalisme magique dans ce contexte très quotidien et réaliste.
Oh, c'est très intéressant.
Moi, ce que j'aime, ça m'a fait penser quand j'avais lancé la perche à Simon Bouleris. Pour moi aussi, j'aime les hommes. J'avais dit, tu sais, Simon, souvent on entend parler des choses dramatiques, violentes et tout ce que tu veux. Mais je dis, nous, on a eu des belles vies. Je veux que ça ressorte dans ce livre-là. Et dans ce que tu viens de nous raconter, je trouve ça extraordinaire. À Roberval, dans un lieu de grève, on s'est entendu que le gars, il est peut-être tout seul à se tenir debout dans sa parole. Peut-être pas le seul gay, mais bon, il se tient debout. Puis que les autres tombent en amour avec l'individu. Ben, c'est le fun, c'est une belle histoire.
Oui, c'est vraiment...
Alors, j'imagine un jeune de 15-20 ans lire c'est comme le fun. T'sais.
Ben oui, vraiment, c'est des beaux modèles.
Ah ben ça, on va en parler.
Ouais, non, mais je te le conseille.
Un autre.
Ensuite, une traduction cette fois, c'est une artiste qui originaire du Brésil, qui réside à Montréal, s'appelle Eloïsa Aquino. Avait sorti sous forme de petites brochures des zines, dans le fond, des portraits de femmes lesbiennes avec une expression de genre qui était plus masculine. Donc, des portraits de femmes un peu partout un peu dans tous les domaines de l'histoire. On parle de Claude Cahun, qui était une écrivaine et performeuse française, Gertrude Stein, qu'on connaît très bien, Judith Butler, la théoricienne féministe queer. Dans le fond, elle présente ces femmes-là. C'est des petites biographies qui sont traduites cette fois aux éditions Sans fin, qui sont des éditions de Montréal, des éditions lesbiennes. Et ces portraits-là ont été traduits par Nesrine Bessa, qui est une traductrice qui est très impliquée dans le communautaire aussi à Montréal. Donc, c'est un projet féministe sur tous les plans, un projet lesbien sur tous les plans. Mm-hmm. Donc, c'est des très belles...
Combien de portraits qu'on peut retrouver à l'intérieur à peu près?
11.
11, OK.
Ouais, 11 portraits de femmes plus différentes les unes que les autres, mais qui se regroupent derrière cette identité... lesbiennes-là, qu'elles articulent différemment. Chaque femme se définit autrement, mais on utilise justement l'étiquette butch pour la rendre positive.
Elle en parle trop bien. Mais va-t-on avoir le temps de parler des autres aussi?
C'est pas grave.
L'important, c'est de bien parler.
Oui, c'est vraiment des coups de cœur.
Mais c'est intéressant parce que dans chaque portrait, là, chaque femme a sa réelle identité, de la façon dont tu nous parles.
Oui, c'est ça. Puis comment elle se définit elle-même, comment elle interagit dans le monde, ce qu'elle fait, son métier. Dans le fond, il y a des chanteuses, il y a des gens qui sont dans le milieu du cinéma, des gens qui sont dans la littérature, dans le militantisme. C'est cool. C'est vraiment inspirant.
Ça a l'air intéressant.
Des beaux modèles, encore une fois.
Mais c'est deux beaux choix, quand même, jusqu'à date.
Je ne connaissais pas les éditions Sans fin. J'aime beaucoup le nom.
Oui, mais c'est leur quatrième bouquin, je pense.
C'est
assez nouveau. Ouais.
Ah, c'est assez nouveau.
C'est dans le quartier aussi,
là. Ouais.
Tu as la pointe de la nouveauté. Donc, les éditions Sans fin, portrait d'illustre...
Butch.
Ouais.
Butch qu'on traduit pas puisqu'on utilise le même terme.
D'accord. Eh bien, on continue dans un instant.
Tu rêvais à Chopin ou à Franz Liszt, dans un grand salon de l'hôtel Ritz. Tu écrivais des mots sur un bloc-notes. Oh, ma Zelda, tu ressemblais à la Zelda de Scott. Tu portais une cape de Zilline à l'autre coup en cachemire de la Zeppeline. Tu portais une cape de Zilline à l'autre coup en cachemire de la Zeppeline. Oh, ma Zelda, toutes les femmes de la terre étaient là dans un coin de ta tête, Zelda. Angela, Rosa et Virginia, comme tant d'autres que je ne connais pas. Tu portais une cape de Zeppeline en écoutant Cachemire de la Zeppeline. Tu portais une cape de Zeppeline en écoutant Cachemire de la Zeppeline. Sont dans les rêves des femmes et les prisons. Plus jamais elles quitteront les villes comme Zelda. We'll be right back.
Zelda, revue par Feu Chatterton.
Et maintenant, voici notre... Enfin, non, pardon Sandrine, excuse-moi. Ton deuxième invité coup de cœur, Vincent Bolduc. Bonjour Vincent,
bonjour,
bienvenue.
Bonjour, merci.
Alors, je te laisse le présenter.
Oui, dans le fond, Vincent...
Pourquoi ton coup de cœur?
Oui, Vincent est l'auteur du premier livre d'une nouvelle maison d'édition féministe à Montréal, les éditions Dandelion. Donc, Vincent est... entre autres, l'auteur de ce livre, mais aussi le porte-parole du Gris Montréal. Mm-hmm. Donc, bonjour Vincent.
Salut, salut.
D'autant plus intéressant. Alors, ce livre, Derrière les yeux de Billy, qu'est-ce qui a fait ton coup de cœur avant qu'il en parle?
C'est une histoire très touchante qui va parler du deuil, mais aussi de l'amour, du fait d'apprivoiser une peur, apprivoiser une peine. Et je trouvais qu'il était vraiment écrit à hauteur d'enfant. Et justement, ces mots simples ont permis au personnage de vraiment s'apaiser et mieux vivre cette expérience difficile.
Ouais. Vincent, c'est à toi, après des mots pareils. On
ouais,
te laisse la
ça.
Parole.
Bonne chance. Essaie d'avoir l'air aussi intéressant que Sandrine.
Ça sent difficile. Mais c'est très juste. Hein? C'était la volonté de, dans ce livre-là de parler d'abord d'anxiété chez les enfants. Parce qu'ayant trois enfants moi-même, j'ai vu des enfants exprimer l'anxiété de façon différente.
Tout à fait. C'est vrai.
Et cette peur-là de perdre quelque chose ou quelqu'un, elle est là bien avant la première perte en général. Et ce personnage-là de Billy s'exerce à perdre... une roche porte-bonheur qu'elle enterre dans la terre à l'automne, mais elle sait très bien qu'elle va peut-être pas la retrouver. Elle sait très bien qu'elle tient le toutou un petit peu trop proche de la fenêtre, puis elle pourrait l'échapper. Elle apprivoise la perte, mais le jour où son grand-papa meurt, elle n'était pas encore assez renforcée et elle trouve ça très dur et elle se demande où il est allé. Et donc, d'aborder le thème du deuil comme première grande perte, parce qu'il y a plein de petites pertes à l'enfance, mais celle-là, quand elle arrive, la première fois qu'on se rend compte qu'on ne reverra plus quelqu'un, ça peut être un deuil, mais ça peut être un départ aussi. Ça peut toucher la séparation de certains parents, etc. Donc, les pertes à court ou à long terme, c'était une volonté de départ. Et après ça, bon, le deuil s'est imposé et ces questions-là qui reviennent souvent, en fait, ces réponses qui reviennent souvent, qu'on donne aux enfants pour se débarrasser un peu, pas méchamment, mais parce qu'on veut régler la question.
Peut-être aussi parce qu'on ne sait pas quoi leur dire.
Ben oui, effectivement, parce qu'on ne veut pas rentrer dans nos propres peurs aussi. Très tangible, comme il s'est envolé, il est retourné dans la terre d'où il vient. C'est des questions qui viennent avec d'autres questions des enfants qui se disent, mais il vole sur quoi? Et donc, il peut tomber. S'il vole, il peut tomber. Donc, c'est des questions qui amènent d'autres questions.
Bien sûr.
Et voilà, ça aborde ça. Ce que j'aime beaucoup des éditions Dandelion, qui est une nouvelle maison d'édition, c'est que leur volonté, c'est de faire des livres où il y a une diversité corporelle, culturelle, familiale, sexuelle, à intégrer à l'intérieur des livres. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de ces livres-là, et heureusement, on a eu des... Alexis a deux papas. On a eu des livres qui traitaient vraiment de la famille homoparentale, du mariage. Sujet central du livre, puis c'est très important, c'est des outils essentiels, mais eux, leur volonté aussi, c'est qu'ils vont avoir d'autres projets avec des trucs peut-être plus documentaires, etc. Mais dans la fiction, ils voulaient que cette diversité-là soit à même l'histoire sans que ce soit le sujet principal de l'histoire. Que les enfants...
Que le vrai monde se retrouve au cœur.
Exactement.
Du deuil, exemple, ou peu importe. Là, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans ton travail que tu as fait, j'aimerais savoir, c'est pas simple d'être capable, comme Sandrine disait, à hauteur d'enfant, d'exprimer dans des mots que tout le monde comprenne, surtout cette jeunesse-là. Mais est-ce que tu as calqué l'histoire par rapport à un vécu personnel où tu es allé voir des psychologues, où tu es allé chercher de l'information à gauche, à droite?
Il y avait des chroniques au fil du temps qui ont été faites là-dessus. Je tiens une chronique de parentalité en émission entrée principale depuis 6 ans. Toutes les semaines, on se penche sur un sujet. Fait que c'est sûr que le sujet du deuil est revenu, le sujet de l'anxiété chez l'enfant. Nos propres enfants qu'on regarde aussi. Ouais. J'ai eu la chance de travailler avec Jasmine Dubé, qui est une auteure jeunesse que j'adore. J'ai eu la chance de jouer ses textes. Puis j'ai envoyé la première version du texte à Jasmine pour avoir son écho, parce qu'elle connaît tellement cet âge-là. Elle a su me dire, là, la question... laisse-la ouverte, laisse l'enfant se la poser, coupe ta phrase en plusieurs morceaux, que ce soit vraiment, comme tu dis, à hauteur d'enfant. Mm-hmm. Et après ça, c'était en finale du texte, quand il y a toutes ces choses qu'elle va emmagasiner dans sa tête au fil du temps pour ne pas les perdre tout à fait, il y a ce chien qu'elle va avoir trouvé, cet ami au camp de jour, et la fille dans sa classe qui lui fait des papillons dans le ventre, et cette fille-là qu'elle rencontrera plus tard, avec qui elle aura un enfant. Donc, la famille homoparentale, elle est dans son avenir okay. à cette personne, à cet enfant-là. L'enfant qui lit à l'école peut dire « Ah, comme moi qui ai deux mamans » ou « Comme toi qui as deux papas mm-hmm. » ou qui peut reconnaître son ami ou lui-même, mais il est le héros d'une histoire où ce n'est pas le sujet principal. Et ça, c'est vraiment ça, dans ça. Leur volonté.
Ah, c'est très bien fait.
Ça me fait penser...
Et les dessins, moi, je voulais savoir oui, aussi pour les dessins.
Alors, c'est Chloé Lula. Chloé est une illustratrice extraordinaire
ah, oui.
Qui a une sensibilité, qui a su donner un sens à plusieurs... À des grandes parties du texte, au point où il y a des fois où j'ai pu enlever du texte, j'attendais ce moment où je pouvais tout à coup enlever des mots.
Oui, parce que l'image représentait suffisamment. Ah oui, exact. Ça, c'est beau, ça.
Puis elle aussi a décidé d'avoir dans la famille, au niveau de l'illustration, oui. une jeune fille qui habite à la campagne dans un village que j'ai situé quelque part au Québec. Et elle a décidé que le papa avait la peau noire et la maman avait la peau blanche, ce qui est aussi un autre type de diversité familiale, culturelle, qui existe partout et que ce n'est pas le sujet même du livre. C'est simplement la réalité de Billy comme sa réalité future de famille homoparentale. Mm-hmm.
Ça m'a fait penser, je travaille présentement... pour la première édition du Salon de la mort qui va oui. avoir lieu à Montréal les 3 et 4 novembre prochains. Et il va y avoir différents conférenciers sur le deuil animalier, exemple, ou comment accompagner un jeune dans le deuil et tout ça. Et la librairie, le parchemin, va être sur les lieux pour vendre des livres en lien avec la thématique. Et je trouve que ton livre s'inscrit
ton livre bien là-dedans. Mm-hmm.
Donc, ce serait peut-être que je vous mette en contact ensemble
bien
et voir même que tu viens de faire une séance de dédicace durant le salon. Ce serait le fun.
Tout à fait. Puis ce que j'aime beaucoup de ce qui arrive depuis tantôt, c'est que cette maison d'édition-là, qui est vraiment un projet de Rachel Arsenault et Stéphanie Barahona, a été beaucoup axée sur la mission de la maison. Mm-hmm. Fait qu'on parlait souvent, quand on annonçait le livre, de la diversité à même l'histoire, mais je me rends compte que effectivement il arrive exactement ce qu'on voulait qu'il arrive. Le sujet de l'histoire devient au-delà de la représentation dans le livre. On parle de deuil parce que finalement c'est ça l'histoire et c'est exactement ça qu'il voulait faire.
Ce qui est le fun, c'est que je trouve que c'est le deuil qui est central et tout ce qui entoure ça, c'est comme la réalité. C'est pas important qu'il y ait des gays, des straights, n'importe quoi. T'sais, peu importe, c'est ça que je trouve beau. Au fil de l'histoire, on rencontre toutes sortes de personnages.
Mais chez l'enfant, c'est la réaction qu'on reçoit.
Tous les jours
c'est la réaction c'est qu'on reçoit. Quand on
c'est
dit,
c'est plus
comme
naturel
le papa
chez
de...
eux. C'est nous qui leur mettons des barrières. Mais autrement, eux, ils sont...
C'est ça, ils sont bien ouverts à tout.
Ils prennent les choses comme elles arrivent.
Tout à fait. Eux, ils disent, bah oui, c'est son papa, ben lequel? Ben il y en a deux, c'est pas une question. C'est vraiment que nous, on dise quelque chose là-dessus. Il n'y a rien qui apparaît. Et là, j'ai vu quelques enfants, j'ai eu la chance, entre guillemets, de voir les réactions d'enfants qui ont perdu un grand-parent dernièrement, puis j'attends encore des retours de certains enfants. Mais chez certains enfants, l'écho, en tout cas, est bon des questions qui sont soulevées. J'ai hâte de voir au fil du temps.
On n'a pas eu l'occasion encore de le lire en entier, mais rien que les pages tournées, moi, j'ai trouvé ça... Félicitations, c'est tout ce que je voulais te dire.
C'est vraiment bon.
Un mot à toute l'équipe parce que c'est vraiment un travail d'équipe, un album d'équipe. Jeunesse.
Tout à fait.
Félicitations à tous, en tout cas.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire. Sans rien faire, eh ben on s'y fait. Mais vivre sans...
immense sagesse, immense ferveur. Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Jusqu'à la fin du jour.
On vient d'entendre Suissa qui nous revisitait la tendresse.
Alors voilà, nous voici de nouveau dans le studio. Il faut vous dire, parce que je vais être complètement honnête avec vous, qu'on a ouvert la bouteille de vin et qu'on trinque à l'anniversaire d'Alain Labonté, qui a eu lieu il y a déjà quelques jours, mais encore une fois, toujours jeune et beau. À la tienne, Alain.
Merci, merci. C'est gentil.
On t'aime. Voilà ce que je voulais te dire. Et maintenant, dans la deuxième partie, donc dans la deuxième heure, et maintenant, nous sommes avec Librex. Véronique, elle est là. Véronique est revenue et elle nous a amené son coup de cœur, Nathalie Roy. Et merci Nathalie d'être avec nous.
Ben, je vous en prie.
Ça va être la prochaine heure. On va avoir plein de choses à discuter. Je ne sais pas si on en aura assez, mais tu as amené des livres aussi?
Oui.
Tu vas nous présenter des choses?
Tout à fait. Bon. Nathalie aussi, oui. Hein?
Bah écoute,
les suggestions lecture.
On va remplir entre toute ta vie, enfin non, toute ta vie c'est trop, on n'aura pas le temps, mais des suggestions lecture, parler de toi, parler des autres suggestions, parler d'Alain aussi, le faire lire encore quelque chose, c'est comme ça que ça va être. Alors merci beaucoup à tous et on dit au revoir à la première partie de notre de notre émission. Et la deuxième partie va être là. Donc, à tout de suite. On se retrouve tout bientôt.